bien, bonjour, nous nous retrouvons sur Radio Grenouille, comme le premier jeudi de chaque mois, à partir de 15h, pour une émission Le Petit Alter Radio, qui est proposée par Attaque Marseille. Attaque est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action, qui cherche à analyser notre monde et à être une force de proposition pour dessiner les contours d'autres mondes possibles. Au cours du dernier trimestre 2009, nous vous avons proposé plusieurs émissions en préparation du sommet de Copenhague. La première émission était pour expliquer le phénomène du réchauffement climatique et des solutions mondiales à y apporter. La deuxième émission était sur les enjeux de Copenhague. La troisième émission, nous l'avions faite en direct de Copenhague pour vous donner des informations sur ce qui se passait sur le sommet. Et nous, en janvier 2010, nous avions fait une émission sur l'après-Copenhague, comment construire l'avenir et quelles étaient les décisions à poursuivre. Bien, bon, mais des événements se sont passés au cours de ces derniers mois. Je suis avec Joël Martin d'Attaque Marseille et avec Nicolas Aringer, qui est rédacteur en chef de la revue Mouvement, pour parler de ces points-là et des divers travaux qui sont menés et qui sont en cours. Je passe la parole à Joël.
Oui, bonjour. Donc, après Copenhague, c'est vrai qu'on était extrêmement déçus. On se dit le monde va à la catastrophe, réchauffement climatique, fonte des glaces, montée du niveau des océans. Et qu'est-ce qu'on fait ? Aucun engagement précis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis on a appris donc un gouvernement, le gouvernement de Bolivie, donc avec son président Evo Morales, convoquait une conférence dans une grande ville de Bolivie, à Cochabamba, pour le mois d'avril, avec l'idée d'un référendum des peuples sur les mesures à prendre contre le réchauffement climatique. Alors, je vais demander à Nicolas, ma foi, ce que c'était que ce projet de conférence des peuples à Cochabamba.
Oui, donc bonjour. En fait, cette proposition d'Evo Morales d'organiser un sommet des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre-mère est directement issue de l'échec de Copenhague. Copenhague avait été présenté à la fois par les gouvernements et par de nombreuses organisations de la société civile comme le sommet de la dernière chance, le moment où sauver la planète, sinon c'était trop tard, et qui a débouché sur un accord extrêmement faible, pauvre, qui de l'aveu de toutes les personnes qui suivent les négociations aurait pu être rédigé avant le sommet lui-même, donc c'était un sommet quasiment pour rien, avec de très faibles avancées. Les seules avancées, en fait, c'est la reconnaissance que les États-Unis doivent prendre des engagements et que la Chine aussi, ainsi que les pays en développement, doivent prendre des engagements et pas simplement les pays industrialisés, mais aucun engagement contraignant, aucun mécanisme de contrôle de ces engagements. Et donc, en plus, une remise en cause du cadre des négociations, puisque ces négociations se passent dans le cadre de l'ONU, fonctionnent par consensus, donc dans un dispositif assez ouvert, et que Copenhague a commencé à développer des circuits de négociations parallèles qui court-circuitaient en fait l'espace officiel. Donc un échec assez cuisant, retentissant, plutôt déprimant à la fois pour les organisations conscientes des enjeux et désireuses de contribuer à lutter efficacement contre le changement climatique, et évidemment dramatique pour les États insulaires, notamment du Pacifique Sud ou des pays comme les Maldives, pour un certain nombre aussi d'États africains qui sont déjà en première ligne face au changement climatique. Et donc la proposition de la Bolivie, c'était de dire que si le circuit officiel de négociation ne fonctionne pas, alors autant se réunir dans un autre cadre et dans un cadre un peu inédit, qui associe des chefs d'État, des représentants de gouvernement, mais aussi des organisations de la société civile, des mouvements sociaux et des mouvements indigènes. Et donc le sommet de Cochabamba a réuni en avril dernier à peu près 30 000 participants, contre 15 000 attendus, en provenance de 147 pays. Il y avait deux chefs de l'État qui étaient présents, Evo Morales bien entendu et Hugo Chavez, le président du Venezuela, et 45 pays avaient envoyé une délégation officielle. Donc la France avait envoyé Brice Lalonde, le négociateur, le Sherpa des négociations françaises sur le climat. Et c'est tous ces gens-là, mais principalement donc des mouvements sociaux, ont travaillé dans 17 groupes de travail différents sur les forêts, sur le marché carbone, sur les alternatives au changement climatique, sur les droits de la terre-mère, etc. Et de l'aveu des participants, c'était un véritable succès, quelque chose qui ressemblait à un forum social, mais en beaucoup plus politique et plus concret.
Oui, moi j'ai trouvé ce qui était tout de même assez intéressant et très différent de ce que nous voyons en Europe, c'est cette espèce de plus que de coopération, de synergie entre des gouvernements élus démocratiquement et puis des mouvements sociaux. Hein. Et en particulier, comme tu l'as dit, Nicolas, l'Équateur, le gouvernement de l'Équateur n'était pas représenté en tant que tel. Enfin, était représenté, mais n'était pas organisateur comme la Bolivie et le Venezuela. Oui. Mais tu me diras si je me trompe. Mais si j'ai bien compris, il y avait un débat en Équateur pour savoir si, par rapport au parc de forêt de Yasuni, donc qui est une immense réserve de biodiversité naturelle. Donc c'est de la forêt équatoriale ou tropicale, je ne sais pas exactement. Et donc, il y a un gisement de pétrole fantastique en dessous de cette forêt. La question était, enfin, le gouvernement était bien tenté de mettre en exploitation ce gisement de pétrole. Et donc, cette question fait partie des questions qui ont été débattues à Cochabamba.
Alors, effectivement, Rafael Correa, le président équatorien, avait annoncé quelques mois avant, alors il y a eu quelques soubresauts ensuite après cette annonce, mais a maintenu son engagement de ne pas exploiter l'équivalent de 850 millions de barils de pétrole, ce qui représente quelque chose comme 7 ou 8 milliards de dollars de revenus, donc dans une partie d'un parc national, qui s'appelle le parc national de Yasuni, et ce sont trois forages différents, ces forages s'appellent ITT, d'où le nom du projet Yasuni ITT, donc de renoncer à ces forages, à la condition évidemment que la communauté internationale contribue de manière substantielle à ce projet, et en fait verse l'équivalent de 3,5 milliards, puisque forêt le coût d'exploitation est d'environ 3,5 milliards. Donc si on attend 7 milliards de ressources et qu'on déduit ce que ça coûte, on tombe sur 3,5 milliards. Donc le gouvernement équatorien ne forera pas cette zone à la condition que la communauté internationale contribue à la hauteur de ce qu'il aurait pu gagner. Et alors, ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est d'une part qu'elle ouvre une voie assez inédite pour l'après-pétrole, qu'elle met les pays du Nord, les pays industrialisés, face à leurs responsabilités, et qu'en même temps, elle met aussi en débat les politiques extractives des pays du Sud, y compris des pays andins comme la Bolivie, le Venezuela et l'Équateur, qui sont des pays progressistes et qui se disent conscients des défis liés au changement climatique, mais dont l'économie repose tout entière sur les politiques extractives. Et donc ce projet met un peu tout ça en tension et donc une voie vraiment, vraiment intéressante à creuser. Donc il y aura un débat à Marseille, le 28 octobre, là-dessus.
Oui, c'est ça.
Au point à bascule ?
Non, c'est pas au point de bascule. Non, c'est au bistrot L'Équitable, cours Julien. Hein, donc, ce sera le jeudi 28 octobre avec Mathieu Lecang, qui est un chercheur qui travaille sur ce projet en Équateur. Moi, je trouve fantastique que, justement, nous avons trop l'habitude, nous, ici, en Europe, que les mouvements sociaux existent, ils sont forts, mais ils n'arrivent pas à débloquer les politiques des gouvernements, alors que quand il y a un rapport de force un peu différent, comme on le voit en Amérique latine, eh bien, il peut y avoir plus qu'une pression, quoi, vraiment une synergie. Et...
Oui, mais ça vient aussi certainement de l'état d'esprit des gouvernements locaux, qui est différent.
Absolument,
voilà.
Absolument.
Ils mettent en avant la préservation de leurs ressources naturelles en tant que terre-mère, je veux dire, de leur biodiversité, avant leur intérêt économique. Je veux dire, ils font passer une action de plus long terme sur une action qui est relativement à l'échelle planétaire et beaucoup plus réduite.
Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais rebondir sur cette idée de terre-mère. Parce que c'est vrai que ça nous a un peu surpris, nous les Européens, de voir qu'une conférence mondiale parlait des droits de la terre-mère. C'est vrai que la terre-mère, bon, c'était une divinité chez les Indiens avant l'arrivée de Christophe Colomb et des Espagnols. Mais quand on regarde bien la déclaration qui a été votée à la conférence de Cochabamba, c'est vrai qu'ils disent que les droits de la terre-mère, c'est les droits de toutes les entités qui font partie de cette terre-mère. Donc, les droits des forêts, des animaux, les droits de l'homme, les droits humains, bien sûr. Et évidemment, l'individu humain a des droits qui sont beaucoup plus importants que chaque individu animal. Mais donc, c'est une approche qui montre bien qu'actuellement, à l'échelle mondiale, face à des dangers qui menacent toute l'humanité, il y a une pensée en dialogue entre les différentes cultures. Et ça, c'est aussi, je crois, un acquis de la conférence de Cochabamba et de tout ce mouvement altermondialiste qui, maintenant, est en train de rebondir là-dessus.
Oui, et alors c'est pas un hasard évidemment si c'est lié à la rencontre de Cochabamba et donc en Bolivie, puisque Evo Morales est lui-même issu des mouvements indigènes et que ce sont les mouvements indigènes des Andes qui portent cette idée de Pachamama, donc de terre-mère. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est que c'est une traduction d'une notion, d'un concept, d'une approche, d'une cosmovision bolivienne, mais en termes juridiques pour qu'elle puisse s'intégrer à l'ensemble des déclarations qui fondent un peu la communauté internationale. Donc l'idée de départ, c'est pas de dire, et les Boliviens eux-mêmes l'ont dit, de prendre en compte la Pachamama telle qu'elle dans toutes les cultures, mais de se laisser interpeller par cette approche-là, et de traduire ensuite dans une déclaration juridique ces droits de la nature, qui ne sont pas les êtres humains qui vont définir quels sont les droits des forêts ou les droits des animaux les uns par rapport aux autres, mais c'est bien les droits de la nature dans la relation que les êtres humains entretiennent avec elle. Et donc c'est ce qu'on appelle des droits de quatrième génération, la première génération de droits étant celle qui est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est le droit à la liberté d'expression, la liberté politique, ces grandes libertés. Deuxième génération de droits, ce sont les droits issus de l'immédiate après-guerre, les droits économiques, sociaux et culturels. Troisième génération de droits, ce sont les droits plus généraux, à la fois issus de la décolonisation, comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et les droits à un environnement sain, le droit à un environnement sain, ou ce genre de choses, le droit à la santé. Et donc la quatrième génération de droits, ce serait les droits de la nature, de ce qui n'est pas seulement humain, mais également non humain.
Ouais, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ces discussions philosophiques, mais on s'aperçoit que l'espèce humaine, qui est l'espèce, disons, qui a le plus de pouvoir sur Terre, c'est elle qui dicte, qui essaie de dicter l'avenir de la planète. Et je veux dire, cette espèce humaine, elle est temporelle, je veux dire, elle ne sera pas éternelle, et donc... Il y a aussi beaucoup à relativiser tout ce qui est fait sur ce sujet-là, quoi. Il faut resituer dans un contexte beaucoup plus global pour voir l'avenir de la planète en tant que telle, l'espèce humaine faisant partie de cette biodiversité comme les autres.
Oui, enfin... Et ce qui est important aussi, c'est que, bien sûr, il faut relativiser l'espèce humaine, mais il ne faut pas relativiser nos responsabilités. Hein. On a des responsabilités par rapport aux risques climatiques. Et de dire que, par exemple, il faut tenir compte des intérêts commerciaux des entreprises avant de tenir compte de cette responsabilité globale, ça ne tient pas. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, je trouve, dans ce qui s'est passé à Cochabamba, outre le fait que, il y avait du monde, etc., c'est qu'une grande partie des conclusions de Cochabamba ont été reprises ensuite dans la négociation. Mais ça, on y reviendra dans un moment, si vous voulez.
Thank you. pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Bien, ben écoutez, nous allons reprendre nos discussions sur Cochabamba et sur les différentes opportunités qui se présentent. Je repasse la parole à Joël et à Nicolas pour poursuivre ce débat.
Oui, alors qu'est-ce qu'on a devant nous maintenant? À la fin de l'année, il y aura donc une conférence mondiale à Cancun, au Mexique, pour essayer d'aboutir à un accord sur le climat. Et alors, entre-temps, il y a des demi-conférences, des mini-conférences qui sont des lieux de négociation. Et ce qui a eu lieu au mois d'août, ça a été une petite conférence comme ça à Bonn. Et lors de cette conférence de Bonn, des États comme la Bolivie sont venus avec la déclaration de la conférence des peuples de Cochabamba et ont proposé que ce soit intégré dans la base de négociation. Et ça a été accepté. Je ne dis pas que les objectifs ont été acceptés par l'ONU, mais l'ONU a accepté d'intégrer ces objectifs proposés par la Conférence des Peuples, de les intégrer dans ce qui doit être discuté. Alors peut-être, Nicolas, tu pourrais nous donner plus de détails là-dessus.
Non, Bonn change effectivement un peu la donne de ce point de vue-là, puisque ce qui change par rapport à Copenhague, c'est effectivement qu'une partie de la déclaration de Cochabamba a été ajoutée au texte qui est mis en négociation et qui est la base sur laquelle les négociateurs travaillent en vue de Cancun et de parvenir à un accord à Cancun. Donc c'est un peu technique, mais ça peut s'expliquer de manière relativement simple. En fait, il y a un texte qui circule entre les délégations, qui est le texte proposé par l'ONU, et toutes les parties qui font accord sont rédigées telles quelles, et les parties qui font encore débat sont mises entre crochets. Et donc les éléments issus de la rencontre de Cochabamba sont entre crochets à différents endroits des 70 pages maintenant de documents qui sont issus de Bonn, qui sont discutés actuellement à Tianjin en Chine, qui est la dernière réunion de préparation de Cancun. Alors, fait peu de doute que les éléments issus de Cochabamba ne seront pas dans la déclaration finale de Cancun compte tenu des rapports de force entre États et du fait que il y a peu d'États au final qui portent ces revendications-là. Mais ça change quand même la donne parce que ça ouvre une voie pour les gouvernements et pour les pays du Sud, les pays insulaires et pour la société civile, une voie sur laquelle s'appuyer pour faire pression sur les États dans les négociations et les obliger au moins à se justifier sur pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas intégrer les éléments issus de la rencontre de Cochabamba. D'autant plus que, à l'évidence, le processus de négociation après Copenhague est mort. C'est ce qu'a écrit notamment George Monbiot, qui est éditorialiste au Guardian, le quotidien anglais. Et Monbiot fait un peu référence sur ces choses-là et donc a écrit une tribune la semaine dernière pour dire « Le processus est mort. La seule chose qu'on peut attendre de la conférence de Cancun à la fin de l'année, c'est que les délégués ne s'endorment pas pendant les négociations. Rien d'autre. Les discussions commencent donc maintenant sur d'autres circuits de négociation. Et de ce point de vue-là, la société civile et des initiatives comme Cochabamba peuvent jouer un rôle clé dans ce qui émergerait comme nouvelle forme de diplomatie climatique.
Oui, parce que si j'ai bien compris, Cancun, ça va sanctionner la fin des accords de Kyoto, et donc il va falloir repartir maintenant sur de nouvelles bases pour fixer de nouveaux objectifs.
Oui, alors en fait, la première période d'engagement du protocole de Kyoto arrive à échéance en 2012. Elle a débuté en 2008, alors techniquement c'est la deuxième période, mais c'est la seule qui a fonctionné, donc c'est comme si c'était la première. Donc à partir de 2012, les engagements pris par les pays industrialisés ne tiennent plus et doivent donc être réactualisés remis en discussion, puis formalisés dans un accord. Et c'est là notamment que le bât blesse et que le bât a blessé à Copenhague, c'est que les États-Unis qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto ne veulent toujours pas entendre parler de Kyoto ou d'un substitut à Kyoto sous forme d'un accord contraignant. Les autres, l'Union européenne a complètement abandonné le protocole de Kyoto, ne l'a pas défendu à Copenhague, et donc à un an de la fin de cette période d'engagement, on est un peu nu et sans perspective par rapport à ça. Donc Cancun ne permettra pas d'avancer là-dessus, c'est à peu près acquis. La seule chose qui peut arriver à Cancun, c'est que les circuits parallèles de négociation sur les forêts, sur les transferts de technologies, sur le fonds d'investissement pour le développement avancent, et disons de définir un cadre de négociation qui permette d'arriver l'année prochaine à Johannesburg, donc c'est la prochaine rencontre des Nations Unies sur le changement climatique, puisqu'il y en a une par an, et à Johannesburg, là, essayer de parvenir à un accord sur la poursuite du protocole de Kyoto.
Et alors, comme objectif concret, donc il s'agit de fixer des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc les scientifiques du GIEC, groupe intergouvernemental des experts sur le climat, donc demandent une réduction non seulement importante des gaz à effet de serre, mais qui commence vite, qui commence dès 2015. Donc je crois que la conférence de Cochabamba demande que les pays développés réduisent de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre, de 50%, oui, de 50, oui, leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, en termes d'ordre de grandeur, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les pays signataires du protocole de Kyoto de 2008 à 2012, c'est environ 0,3%.
Alors qu'ils avaient mis en place des mécanismes de crédit carbone, c'est-à-dire des autorisations d'émissions de gaz carbonique et autres, qui étaient théoriquement censés amener les entreprises à faire des modifications techniques pour diminuer ces émissions. Et donc finalement, si c'est moins de 1% d'émissions, ça tendrait à dire que on s'est un peu moqué du monde, quoi.
Oui, complètement. Alors, l'engagement sur la période 2008-2012 pour les pays de l'Union européenne, c'était une réduction environ de 8%. Alors, pas dans chaque pays, il y avait des approches différenciées, mais entre les 8% et les 0,33%, on voit déjà qu'il y a un écart énorme. Et par rapport aux 50%, là, l'écart est gigantesque. Et pourtant, c'est bien ces 50% qui sont nécessaires pour rester en dessous d'un réchauffement de 2 degrés à l'horizon 2050. Ce réchauffement inférieur à 2 degrés, c'est celui qui est préconisé par le GIEC. Il faut savoir que si le réchauffement n'est que de 2 degrés, ça ne suffit pas à sauver un certain nombre d'États insulaires du Pacifique Sud, et qu'en revanche, un réchauffement inférieur à 2 degrés ou égal à 2 degrés implique non seulement un engagement des pays industrialisés, mais aussi un engagement des pays en développement. Alors l'un des problèmes, effectivement, dans la réduction des gaz à effet de serre, c'est le marché carbone, qui a de nombreux biais. De nombreux biais qui rendent en fait assez inopérant ce mécanisme de contrôle des réductions de gaz à effet de serre pour plusieurs raisons, au moins quatre raisons. La première raison, c'est la question de la date de référence que l'on prend pour la réduction des émissions. Alors il y a certains pays qui ont intérêt à ne pas prendre la date de référence de 1990, qui est inscrite dans le protocole de Kyoto. C'est le cas des États-Unis qui prennent une date plus récente, je crois qu'ils prennent 2002 comme date, mais du coup leur engagement de réduction est beaucoup moins important que par rapport à 90. Et il y a des pays qui au contraire ont intérêt à prendre 1990 comme date de référence. C'est le cas de la Russie. Puisqu'en 1990, la Russie, ex-URSS, avait une industrie encore, peut-être pas florissante, mais en tout cas en développement, et s'est depuis effondrée. Et donc la Russie a en fait un objectif de réduction qui n'est plus conforme à la réalité de sa production qui s'est effondrée. Mais elle peut vendre des émissions qu'elle n'a pas faites en raison de l'effondrement de son économie. Donc ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est celui de la double comptabilité. Si la France investit en Chine pour transformer un projet de construction d'une centrale au charbon et le transformer en centrale hydroélectrique, la France aura le droit à émettre du carbone en France. Donc sera comptabilisé comme un effort de réduction des émissions françaises, mais ce sera aussi comptabilisé par la Chine comme un effort de réduction de ses émissions. Donc un même projet est comptabilisé deux fois, une fois en France, une fois en Chine, pour la simple et bonne raison que les réductions des émissions ne sont pas forcément domestiques. La France peut très bien réduire les émissions par l'achat de projets verts ou de crédits carbone à l'étranger.
Oui, on en avait parlé, ça, en novembre l'an dernier, tous ces mécanismes de MDP, tout ça, qui sont des leurres, quelque part, sur une réduction, on voit bien sur quoi ça s'est traduit, hein. 0,3%, c'est dans le domaine du mesurable, quoi. Je veux dire, 0, qu'est-ce que c'est rien du tout, hein. C'est même pas l'épaisseur du trait, hein. Je veux dire, c'est une minute, ça.
Et donc le troisième biais, c'est un biais intéressant. C'est-à-dire, il n'est pas forcément très significatif, mais il permet de comprendre les dérives du marché carbone. C'est la question des forêts. C'est-à-dire que le Canada, la Suède et la Finlande, entre autres, disposent de forêts qui, en elles-mêmes, servent à faire de la captation carbone et qui est transformée en oxygène. Donc il y a une réduction naturelle des émissions carbone. Et ces forêts sont comptabilisées dans les efforts de réduction du Canada, de la Finlande, de la Suède. Et les lobbies forestiers suédois, finlandais et canadiens ont pesé tout leur poids pour faire accepter, et c'est passé, que s'ils coupent ces forêts, ce ne soit pas considéré comme des émissions supplémentaires. Et donc on a des forêts fictives qui n'existent plus, mais qui sont comptabilisés comme réduisant les émissions de CO2.
Et moi, je trouve, ce qui est fou, c'est tout l'ensemble des tricheries que permet ce mécanisme. Et donc, que se permettent ces mécanismes, qui permettent aussi de spéculer avec... on revend, on rachète des droits d'émissions. Et donc, l'une des demandes de la conférence de Cochabamba, qui n'était d'ailleurs pas initialement prévue par tous les pays du Sud, l'une des demandes, c'est l'abolition de ces mécanismes, très clairement. Et par contre, ils demandent que les pays développés consacrent 6% de leur PNB à des actions sur le climat. 6%, c'est à peu près l'équivalent des dépenses militaires, et c'est un cinquième de ce qui a été fait par les pays développés pour sauver les banques. Je crois qu'il y a des approches vraiment différentes.
Tout à fait.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces questions-là ont été intégrées par l'ONU parmi les questions ouvertement mises en discussion.
Bon, même si là-dessus, l'ONU, enfin les États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne sont pas prêts à abandonner les mécanismes de marché, bien au contraire. Mais disons que la critique des mécanismes de marché progresse à la fois dans la société civile et maintenant également dans les négociations officielles. Et je crois que ce qui est aussi intéressant dans la conférence de Cochabamba et dans la déclaration qu'on est issue, c'est, le fait que l'approche soit éminemment globale, mais en même temps qu'elle tienne compte des impacts locaux du réchauffement climatique. Et c'est là le dernier biais du marché carbone, c'est le fait qu'en fait, une partie des émissions des pays en développement, y compris de la Chine, sont des émissions dues à de la production de biens qui vont être en fait exportés et consommés dans les pays industrialisés. Et qui devrait en réalité être comptabilisé non pas dans la production, dans les émissions de la Chine, mais dans les émissions des pays industrialisés.
C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on émet du gaz carbonique dans l'air pour fabriquer des objets en plastique en Chine, mais ces objets sont fabriqués en partie par des entreprises d'ailleurs françaises, et puis sont fabriqués pour être achetés par nous.
C'est-à-dire que quand on délocalise...
C'est nous, c'est un peu de notre faute aussi.
Quand on délocalise une production, on délocalise aussi les émissions de gaz carbonique.
En fin de compte, la comptabilité, elle se fait sur la production, elle devrait aussi se faire sur la consommation, parce que c'est ceux qui consomment qui demandent à avoir de la production et donc à générer des productions de gaz carbonique.
C'est pour ça que je crois que c'est très important de maintenir un principe qui avait été acté à Kyoto, l'idée de dette climatique. C'est-à-dire l'idée que les États qui polluent, qui envoient du gaz carbonique depuis des dizaines et des dizaines d'années, ont une dette vis-à-vis des autres. Bon, c'est à tout le monde de faire un effort, mais la contribution doit être proportionnée aux dégâts qui ont été faits. Et il y a aussi une autre notion que j'ai vue qui me semble intéressante, c'est l'idée de partager l'espace atmosphérique disponible. Ça veut dire que quand une multinationale pollue en envoyant des gaz à effet de serre, c'est comme si, entre guillemets, elle pompait l'air à tout le monde. Elle nous enfume, en quelque sorte, entre guillemets. Et donc, c'est l'idée de dire, en moyenne, chaque être humain a droit à tel volume d'atmosphère correcte. Et si vous prenez sur l'atmosphère des autres, c'est pas bien, c'est quelque chose qui devrait, alors quoi, qui devrait être taxé, interdit. Dit, là, les méthodes doivent être discutées.
Oui, il doit y avoir une comptabilité qui fait que cette consommation abusive doit être prise en compte dans les mécanismes d'ajustement.
Oui, absolument. Oui. Alors, il y a un autre aspect qui est le développement des solutions locales. C'est-à-dire de systèmes économiques locaux qui soient beaucoup moins gourmands en pétrole ou en charbon. Et là-dessus, il y a encore une autre organisation internationale dont on voudrait parler. C'est le mouvement paysan qui s'appelle Via Campesina, qui est donc un mouvement paysan international. Alors l'un de ses animateurs, il est connu en France, c'est José Bové, qui eux aussi se sont associés à ce cycle de négociations, mais en posant des revendications paysannes, mais qui ne sont pas seulement des revendications pour les paysans et qui vont dans le sens donc de l'intérêt général, avec en particulier l'idée de, plutôt que de transporter des denrées alimentaires produites d'un côté du monde, les transporter de l'autre côté du monde en émettant énormément de gaz à effet de serre, plutôt développer les marchés locaux, ce qui permet aux petits paysans de vivre, plutôt que de faire confiance à des grandes entreprises agricoles quasiment industrielles. C'est la lutte contre les agrocarburants, c'est-à-dire le fait qu'on va supprimer de l'agriculture de subsistance et de proximité en remplaçant ça par des plantations, par exemple, de palmiers qui font de l'huile avec laquelle on fabrique de l'essence pour faire tourner les voitures. C'est-à-dire, en gros, on affame les gens pour pouvoir donner à boire aux voitures. Donc, là, dans ce mouvement des peuples à l'échelle mondiale, il y a une sorte d'internationale des paysans qui s'affirment, qui disent « c'est nous qui nous sont la terre et on demande à ce que la terre soit nourrie, les gens soient nourris de façon équitable. Ils demandent par exemple, alors c'est clair que par exemple la production de viande, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre parce qu'on transporte les bovins, parce que on coupe des forêts, etc. Et ils demandent que on remplace la production industrialisée de viande où oui on donne du soja et du maïs à des vaches pour après les manger au lieu de nourrir directement les hommes, et que ce soit remplacé par une production diversifiée à petite échelle qui permette une consommation de viande qui soit beaucoup plus raisonnable. Donc il y a là toute une convergence entre des recherches scientifiques et puis l'intérêt même des paysans qui restent encore, autant que je sache, à peu près la moitié des travailleurs du monde, c'est ça
Non, et puis ce qui est intéressant dans l'approche de Via Campesina, c'est aussi que quelque part, ça revient à proposer d'inverser l'approche sur le changement climatique qui, dans le cadre onusien, est perçu comme un problème global qui amène des réponses décidées par en haut, par des États, via la diplomatie, autrement dit via des consensus entre les États membres de la Convention cadre de l'ONU, alors que l'approche de Via Campesina, c'est de dire « mais le changement climatique, c'est aussi, voire avant tout, un problème local ». Puisque ces impacts sont d'abord locaux, que le changement climatique tue évidemment localement, qu'il y a des alternatives locales qui sont invisibilisées par une approche globale de négociation telle que ça se passe dans le cadre de l'ONU. Et cette inversion-là, on perçoit son intérêt si on regarde les réponses apportées par les États au changement climatique en termes de développement d'énergie verte. Par exemple, les fermes éoliennes ou les grandes fermes de panneaux solaires que les pays industrialisés envisagent d'installer au Mexique, dans le Maghreb, etc. Et en fait, l'installation de telles fermes donc, est complètement cohérente et logique dans une approche globale, mais revient à exproprier des petits paysans de leurs terres et donc à transformer complètement l'écosystème de régions entières dans le Mexique ou dans le Maghreb. Et l'inversion que propose Via Campesina, c'est de dire partons d'une production locale et de solutions locales au changement climatique. Et c'est une inversion complète par rapport au processus onusien.
Oui, donc ça, là on en revient à toutes ces notions de permaculture. On va aborder ce point-là, et de tout ce qu'on appelle les territoires en transition, qui sont une approche différente pour aborder ces problèmes-là. Et ce que je propose, c'est qu'on, dans cette troisième partie de l'émission, on aborde ces points-là.
Oui, donc là, c'est aussi nous dans les pays riches, qui avons une responsabilité à trouver des solutions locales. Et bon, on en parlera dans un instant.
Bien, nous allons reprendre cette discussion qui était fort intéressante et nous avons abordé un sujet, un terme qui est un petit peu barbare, permaculture. On va essayer de voir ce que ça représente en termes, je dirais, philosophiques et psychologiques. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer à ce que dans les années à venir, on vive avec une utilisation beaucoup plus faible, voire quasiment nulle, de tout ce qui sont les produits carbonés. Et il y a toute une approche complète du mode de vie qu'il faut regarder, qu'il faut bien analyser, et toutes les démarches qui sont engagées. Joël, tu as des explications à donner sur ces points-là ?
Oui, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film de Colin Serrault qui s'appelle « Solution locale pour désordre global », donc qui était dans les salles de cinéma, peut-être il y a encore, hein, c'était cet été. Alors on voit justement que l'agriculture capitaliste, hein, qui consiste à produire pour pouvoir vendre le plus possible, hein, donc elle met beaucoup d'engrais, et l'idée n'est pas de maintenir les sols avec leur richesse biologique, etc. L'idée, c'est de faire produire le plus possible. Alors ça peut aller bien pendant quelques années, mais on arrive à un moment où les sols sont de plus en plus appauvris, il y a de l'érosion, et c'est l'un des problèmes mondiaux actuels. Là-dessus arrive le réchauffement climatique, malheureusement. Et donc, il y a des pays qui étaient un peu limite, question sécheresse, hein, qui vont se retrouver, notamment en Afrique, qui vont se retrouver avec une chute des rendements agricoles terrible. Et comme justement les terres ont été appauvries, comme il y a beaucoup d'endroits qui sont en cours de désertification, la terre est beaucoup plus fragile face à ces risques de sécheresse. Et donc, ça veut dire qu'on est à un moment où il faut vraiment tout repenser différemment. Et c'est là que justement, on a entendu parler de plus en plus de ce qu'on appelle la permaculture, c'est-à-dire l'agriculture permanente, avec l'idée que l'un des buts de l'agriculture doit être d'entretenir le sol, de faire par exemple des cultures combinées, de ne plus faire de monoculture, hein, de cultiver des plantes, des espèces qui se nourrissent mutuellement, hein, et qui mutuellement apportent des nutriments dans le sol. Hein. C'est l'idée d'avoir un sol avec un couvert végétal pour qu'on ait le moins possible à l'irriguer. Hein. Donc c'est une agriculture qui essaye de reconstituer par l'effort humain cette richesse des milieux naturels qu'on a dans une forêt. Parce que les forêts, ce sont justement les endroits où, au cours des millions et des millions d'années, la nature a trouvé des combinaisons entre les espèces végétales, les animaux, les insectes, etc., qui permet une richesse qui s'auto-entretient et que les hommes ont tendance à détruire, enfin les hommes, les intérêts économiques ont tendance à détruire. Alors en France, c'est les efforts de gens comme Pierre Rabhi, le mouvement des oasis, etc. À l'échelle mondiale, ça s'appelle permaculture. Bon, et les gens qui pratiquent la permaculture se sont dit, mais on devrait aussi appliquer cette philosophie à la société. Plutôt qu'une société axée sur la rentabilité, hein, vous investissez tant, il vous faut absolument le plus possible de rentabilité, sinon vos actionnaires vont retirer leurs capitaux. Eh bien, essayons d'avoir plutôt une philosophie qui s'appuie sur la solidarité à l'intérieur de la société pour construire un tissu un petit peu semblable à un écosystème, un tissu économique, un tissu de solidarité locale. Donc, penser des territoires qui puissent justement, autant que possible, se passer des transports à grande distance. Hein. Par exemple, en Angleterre, une grande partie des fruits et légumes sont importés. Hein. Alors que au 19e siècle, peut-être 5% des fruits étaient importés. Autrement, dans une petite ville, il pouvait y avoir en Angleterre, par exemple dans la ville de Totnes, qui justement a été à l'avant-garde de ce qu'on appelle, on va y venir, les territoires en transition. Il y a peut-être 60 ans, il y avait, je ne sais pas, une vingtaine de vergers. Et maintenant, il n'y en a plus que deux ou trois. Ça veut dire que la civilisation capitaliste des pays riches a mis la société en danger, Puisque cette société est dépendante de transports à longue distance, qui bien sûr eux-mêmes émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc en gros, nous sommes dépendants du pétrole, alors que justement le réchauffement climatique nous dit qu'il faut arrêter avec cette dépendance au pétrole. Alors comment faire, voilà.
Ouais, disons que ce que tu évoquais, c'était, disons, une démarche qui partait du monde rural, hein, je veux dire, c'est l'agriculture, c'est le monde rural, et comme on voit que dans les années à venir, la quasi-majorité de l'humanité va vivre dans des villes, il faut voir comment cette notion et cette habitude de vie peut être transplantée et être développée dans les villes. Et voir un petit peu, est-ce que tu as des pistes qui sont en cours d'essai ou de traitement.
Oui, alors justement, donc quand le mouvement des villes en transition, ça veut dire la transition vers l'après-pétrole, donc ce mouvement des villes en transition s'est développé donc en Angleterre, d'abord dans des petites villes. C'était pas seulement par rapport au pic pétrolier. C'était par rapport au pic pétrolier et pas seulement par rapport au réchauffement climatique. C'est-à-dire que non seulement les gaz à effet de serre risquent de foutre en l'air le système climatique, mais il y a aussi le fait que, de toute façon, le pétrole deviendra de plus en plus cher du fait que tous les gisements qui étaient faciles à exploiter, là, c'est le pic, semble-t-il, d'après des courbes qu'on peut lire, aurait été atteint en 2010. Hein. Et ça veut dire que l'exploitation du pétrole est de plus en plus, il faut aller le chercher de plus en plus loin, etc. Donc, tous les produits pétroliers deviennent de plus en plus chers. Et quand on dit tous les produits pétroliers, c'est un peu tout ce qui est notre environnement, parce que c'est le plastique, c'est tous les, je sais pas moi, les salades, il faut les faire pousser dans des serres, les serres pour les chauffer dans les pays où il fait pas très chaud, ben il faut du fuel, etc. Donc on va vers une série de chocs économiques. Pas seulement, en même temps qu'on a devant nous le grand risque climatique, on a aussi devant nous des chocs économiques. Et donc l'idée des villes en transition, c'est de dire, attention, on ne va pas se laisser faire comme ça. Nous avons des ressources locales. Ces ressources locales, elles sont souvent énormément sous-estimées du fait justement de la mondialisation de la production. Et on va essayer de regrouper les gens pour trouver des solutions locales. Je pense par exemple à une histoire sur les transports. Bon, je parle des transports parce que c'est à Marseille, dans le quartier de la Plaine, là on a décidé, une douzaine de personnes, de former un groupe qui s'appelle une initiative de transition. Il y en a comme ça, qui commence maintenant à apparaître dans l'Europe francophone. Hein. Et on se dit, mais plutôt que le tout bagnole, hein, voyons les solutions que nous avons déjà. Hein. Il y a des transports en commun. On pourrait les développer, on pourrait rendre les transports en commun urbains gratuits pour que les gens n'hésitent pas à les utiliser. C'est pas impossible, ça se fait à Aubagne.
Ouais, bon, ça se fait dans des régions.
Voilà, hein. Il y a des vélos. Hein. Si les transports en commun ne peuvent pas aller chercher tout le monde jusqu'à sa porte, hein, on peut avoir aussi le système, le vélo pouce, quoi, comme au Vietnam, tout le monde a vu des photos comme ça, hein, pour faire l'intermédiaire entre le domicile, et pour les personnes âgées, par exemple, hein, et le bus. Hein. Il y a le système autopartage. Tout le monde n'est pas obligé de s'acheter une, voire deux bagnoles. On peut s'acheter, on peut louer. Donc, voilà, c'est un exemple pour dire que nous avons des ressources à l'échelle locale pour arriver à diminuer de façon radicale l'utilisation des dérivés du pétrole. Et ces ressources, on ne va pas attendre que l'État, les gouvernants nous disent « bon, allez, d'accord, on va faire ça hein, ». Parce que ça veut dire, échec de Copenhague, peut-être nouveaux échecs, etc. Si on attend que les grandes entreprises fassent des efforts, elles vont essayer de tricher pour obtenir des permis d'émission de gaz à effet de serre. Donc, commençons à la base, là où on peut agir. Et ce n'est pas seulement les paysans du Sud qui peuvent agir à la base, c'est aussi nous-mêmes dans les grandes villes. J'ai pris l'exemple du transport.
Oui, on voit bien que c'est bien une révolution, je dirais, personnelle, parce que c'est notre mode de consommation, notre mode de vie et de même de conception de la relation que l'on a par rapport au bien de consommation, bien d'utilisation qui est à revoir. Cette notion, comme tu disais justement, de ne pas multiplier, considérer, on prend l'exemple de la voiture, parce que ça s'est toujours fait, quoi. C'est considérer que la voiture, c'est un objet qui sert à faire du transport. Enfin, ce qu'il faut, c'est un objet qui nous serve à nous transporter d'un point à un autre. Et donc, par cette démarche-là, on revient sur une utilisation beaucoup plus centrée sur l'objectif du produit, et non pas une certaine fantasme qu'on a sur les voitures ou autre chose.
Voilà, c'est pareil pour les maisons. C'est-à-dire, les gens ne sont pas bien logés en France, ça c'est clair. Il y a un retard de la construction de logements sociaux, et du coup, les prix des logements montent, location, etc., etc. Ça veut dire bien sûr qu'il faut demander une autre politique de logement et profiter de cette nécessité de construire des logements pour faire des logements qui consomment beaucoup moins. Il faut savoir que maintenant, il existe des techniques, il y en a même en Allemagne, qui n'est quand même pas un pays très chaud, des techniques pour construire des logements zéro énergie. Qui sont suffisamment bien isolés et qui se chauffent tout simplement avec la présence des gens, la cuisine, etc. Donc je veux dire, les initiatives de transition, c'est aussi essayer en se regroupant, en s'entraidant, de se donner les informations sur comment obtenir des financements pour isoler les logements. C'est travailler avec les syndicats que les ouvriers du bâtiment aient des systèmes de formation pour apprendre ces techniques d'isolation des logements. Donc il y a toute une logique. Alors, la logique des villes en transition, je sais qu'à Grenoble, ça a commencé à se développer. Il y a dans le sud de l'Isère, il y a un petit groupe d'agglomération avec environ 9000 habitants qui s'appelle le Trièves, où ils se sont carrément déclarés après pétrole. Il y a une association qui s'appelle Après Pétrole, et donc il y a une volonté de voir toutes les possibilités de préparer dès à présent la transition et de le faire à partir des gens. Pas en disant aux gens « voilà ce que l'État vous dit de faire », mais en disant aux gens « réunissez-vous, regardez déjà ce que nous faisons ». Je pense par exemple les AMAP. Il y a quelques années, on ne connaissait pas les AMAP. Puis on s'est dit « bon, on paye bien à l'avance nos places de théâtre, on s'abonne au théâtre, sans savoir à l'avance si ça va être bien ou pas. Et bien pourquoi pas s'abonner à un agriculteur ? Et comme ça, on lui donne une possibilité d'avoir des revenus sur l'année, donc d'être stable, etc. Et puis toutes les semaines, il nous donne un panier. Bon, c'est à la fois notre intérêt, on mange bien, et c'est arriver à manger local, à diminuer les transports qui émettent des gaz à effet de serre. Bon, mais les AMAP, ça a très bien pris. C'est un élément de la transition à l'après-pétrole. Alors ça veut dire aussi qu'il faut qu'on demande qu'il y ait des jardins dans les centres urbains pour qu'on puisse avoir autant que possible de la production locale. Vous savez, par exemple, à Marseille, il y a une vingtaine à peu près de jardins collectifs. Donc ils sont gérés collectivement, il y a des parcelles individuelles, il y a des parcelles qui servent pour les enfants, etc. Donc en fait, en petit pointillé, pour reprendre un des grands slogans de l'attaque et des altermondialistes, un autre monde est possible. D'autres mondes sont possibles. Mais alors là, moi je trouve que c'est ça qui est bien, quoi, que il faut qu'on arrête d'avoir peur avec le réchauffement climatique. Enfin, il y a de quoi avoir peur, ça oui, mais il faut pas qu'on se fasse avoir par la peur. Et il faut pas non plus qu'on se tourne vers l'indifférence. En disant, oh là là, ça continue, je m'en fous, je prends ma bagnole. Non, 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 ni la peur, ni l'indifférence, mais on se regroupe avec ses voisins, on suit ce qui se passe au niveau mondial, on appuie les mouvements mondiaux, mais en même temps, on fait des choses localement. Et on le fait, dans la bonne humeur, quoi, en trouvant ensemble des solutions. C'est quand même mieux que d'être chacun devant sa télé ou derrière sa bagnole.
Oui, comme l'a dit quelqu'un qui milite peut-être pas toujours dans ce truc-là, Yes We Can, quoi.
We Can, oui, on peut le dire. On aimerait qu'Obama en fasse un peu plus à son niveau, mais enfin, déjà, bon, il a dit la formule.
Si la formule est bonne, maintenant, il faut voir.
C'est à nous de le faire, plutôt.
Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis d'un petit peu avoir une autre vision de ces problèmes-là. Comme chaque fin d'émission, on vous annonce un petit peu les grands événements qu'il va y avoir à suivre. Bon, je vous rappelle le 12 octobre, les mobilisations contre la réforme de la retraite qu'on nous propose. Il y a aussi le 13 octobre, il y a une soirée qui est faite sur le climat avec la participation de Madame Double Doigt, qui est une géographe et qui nous présentera tous ces points-là. Et la réunion se fait au pont de bascule à Marseille.
C'est au 108 rue Breteuil.
Au 108 rue Breteuil. Tu as d'autres informations ?
Juste pour information, dire donc que la revue Mouvement vient de sortir un numéro sur les 10 ans du mouvement altermondialiste et ses liens avec le mouvement pour la justice climatique. D'accord. Que vous pouvez vous la procurer en librairie et que sur le site de la revue www.mouvement.info, mouvement étant au pluriel, il y a un certain nombre d'articles accessibles sur l'initiative Yasuni TT dont on a parlé, sur les villes en transition et sur Attaque et le tournant écolo à l'intérieur d'Attaque.
Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les villes en transition, vous pouvez venir à 1000 Babord, 61 rue Consola, le 10 octobre à 16h. Donc, c'est l'association 1000 Babord qui passe une vidéo sur l'expérience des villes en transition. Il y a même des villes où ils ont mis en place une monnaie locale pour favoriser les échanges locaux. Bon, des choses comme ça. Donc actuellement, il y a la conférence de Tianjin qui est du 4 au 9 octobre, donc il faut être attentif à ce qui va s'y discuter. Le 10 octobre, il y a une journée mondiale pour le climat. En particulier, il y a une association qui est mondiale et qui a une antenne à Marseille qui s'appelle 350.org. 350, c'est un peu technique, c'est le nombre de parties par million, c'est-à-dire la proportion de gaz à effet de serre qui ne doit surtout pas être dépassée. Et donc, ils font une action de nettoyage symbolique de la plage du Prado le matin à 10h, un petit peu pour qu'on prenne conscience de tout ce qu'on renvoie comme dérivé du pétrole, c'est-à-dire en fait c'est toujours du carbone qui va finalement se retrouver dans l'atmosphère avec les plastiques, les trucs comme ça. Donc je dirais bravo les petits jeunes, c'est petit mais on continue et il y a des grandes actions, il y en a des moyennes, il n'y en a pas de vraiment petites.
Et ça s'inscrit dans le cadre d'une semaine internationale de mobilisation contre le changement climatique qui a été décidée à Cochabamba. Donc en France, l'initiative un peu majeure, ce sera le 16 octobre au Havre, quelque chose qui s'appelle Arrêt Total, qui est l'idée d'essayer de bloquer les raffineries de Total et qui est issue du camp Action Climat qui a eu lieu du côté du Havre cet été. Donc camp Action Climat qui est aussi une forme assez innovante de lutte contre le réchauffement climatique.
Ouais, là, c'est une action non violente, mais bien forte, quoi, de la désobéissance pour dire non, on n'est pas là que pour aller à la station-service. Et sinon, donc, Cancun, c'est du 29 novembre au 10 décembre, et il y aura en même temps des forums alternatifs mondiaux, enfin globaux, à Cancun, et je pense que nous ferons sans doute une manifestation ou quelque chose comme ça à cette occasion.
Bien, bon, on arrive à la fin de cette émission. Le sujet de la prochaine émission qui se tiendra en novembre, ça sera sur l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Marseille va renouveler le contrat d'alimentation en eau qui est actuellement confié à la Société des eaux de Marseille. Et on vous parlera aussi du Forum mondial de l'eau qui se tiendra en 2012 et de tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet-là. À bientôt et puis portez-vous bien.
Portons-nous bien.